Voyage au bout du monde, une évasion exotique animée par Isabelle Rupin.
Allez, direction le Cambodge aujourd'hui avec Sébastien Braquet que nous avions vu et écouté surtout pour sur le Népal. Et puis là, on part au Cambodge pour un retour presque aux sources. Sébastien Braquet, bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi je parle d'un retour aux sources ? Parce que c'est le deuxième film que vous faites sur le Cambodge.
Exactement. Deuxième film sur le Cambodge. Et pour résumer l'histoire, en fait, en 2003... J'avais 30 ans et j'ai décidé de tourner mon premier film. Jusque-là, j'avais été étudiant, assistant de caméra, photographe, et puis j'ai voulu devenir réalisateur. Et donc, je me suis rendu au Cambodge, que je connaissais pas du tout, que personne ne connaissait dans ma famille. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'avais choisi ce pays.
Parce que, pardon, on va faire une petite parenthèse. Votre papa a fait beaucoup de voyages. Il est cinéaste aussi, un petit peu comme vous.
Oui, papa a fait une belle carrière de réalisateur et conférencier à connaissance du monde pendant 50 ans. Et donc, il a voyagé à peu près partout dans le monde. Et je l'ai remplacé quand il a été malade. C'est comme ça que je suis rentré dans ce métier. Puis, j'ai décidé de rester dans cet univers de l'audiovisuel, du voyage, du documentaire. Et donc, voilà, c'est pourquoi à 30 ans, j'ai compris que ma vie allait être bercée par les voyages et les réalisations de films. Donc j'ai voulu être réalisateur, pas passer mon temps à être l'assistant d'autres personnes. Et effectivement, j'ai voulu un pays qui soit comme une page blanche dans ma tête, dans mon cœur. Et donc un pays où mon père n'était jamais allé, ça limitait considérablement. Un pays d'Asie, parce que j'adore l'Asie, ça précise un petit peu les choses. Et puis, il y avait une autre raison, plein d'autres raisons, notamment à connaissance du monde à l'époque. Il n'y avait plus de films sur le Cambodge depuis 1968. Et on était en 2003.
Ça en était passé des choses au Cambodge entre-temps. Hein.
Et oui, c'était passé beaucoup de choses en 35 ans finalement. Et aucun film sur le Cambodge. Ce qui fait que je n'avais pas non plus de confrères pour me critiquer ou pour me donner des conseils. J'avais une page blanche devant moi et ça a été merveilleux. Ça a changé ma vie. Hein. D'abord, j'y suis allé avec un petit sac à dos, un appareil photo. Je ne voulais pas tourner tout de suite. Je ne voulais pas filmer tout de suite. J'ai pris ce moment comme un grand changement dans ma vie et je voulais m'immerger complètement dans le Cambodge. Donc, je suis parti seul. J'ai commencé à apprendre la langue avant même de rejoindre le Cambodge et l'alphabet tout de suite. Qui est
très compliqué.
Particulièrement difficile, c'est un des alphabets les plus complexes au monde. Mais, quand je suis allé là-bas aussi, j'avais une petite règle dans ma tête, c'est de ne pas fréquenter d'occidentaux, et surtout pas de français. Parce que lorsqu'on part avec un français, moi je suis français, on va parler de football, on va parler de politique, mais de choses françaises, franco-françaises. Et moi je voulais couper les ponts.
Pour une immersion totale.
Absolument total. J'avais prévu de constituer ma petite équipe pour m'aider. Alors ça demande du temps. C'est un luxe que j'ai pris. Et il m'a fallu un petit peu de temps, d'abord pour connaître bien le pays, savoir ce que j'allais filmer. Et puis préparer mes assistants, qui n'étaient pas forcément des professionnels de l'audiovisuel, mais je leur expliquais ce qu'il fallait faire. Et voilà, ça a commencé comme ça. Donc, premier voyage en 2003. Et début du tournage en 2004 jusqu'en 2006, où j'ai passé vraiment beaucoup de temps là-bas. Et en plus, j'ai fini par y rencontrer ma femme en 2004. et nous avons eu, on est toujours ensemble, on est toujours mariés depuis 18 ans et on a deux enfants. Donc le Cambodge a changé ma vie profondément, vous pouvez l'imaginer.
Bah oui, là on comprend encore mieux. Et alors ce premier voyage a donné lieu à un premier film. Oui. Qui s'appelait ?
Alors, comment s'appelait mon premier film ? J'ai oublié. Je pense que c'était Cambodge, les clés d'un royaume. Mon premier film, hein, il s'appelait Cambodge, les clés d'un royaume. Donc, c'était une galerie de portraits, en fait. Au lieu de filmer le pays, j'ai filmé les habitants. Et j'avais patiemment choisi ces personnages. Alors, il y avait une petite fille, une jeune fille qui devait avoir une dizaine d'années, d'une famille très très pauvre qui apprenait la danse traditionnelle cambodgienne dans un vieux building délabré en espérant que cet apprentissage lui permettrait de changer de vie. J'avais filmé un sorcier tatoueur, un ancien Khmer rouge qui avait lui aussi un petit peu changé sa façon de vivre et qui était devenu un tatoueur, tout simplement parce que quand il était Khmer Rouge, il avait été enrôlé de force. Et les Khmer Rouges, parfois, devaient traverser des champs de mines et ils envoyaient des enfants sur les champs de mines pour qu'elles explosent avant leur passage. Vous voyez, c'est vraiment atroce comme méthode, évidemment, et c'est particulièrement angoissant. Et donc, ce jeune garçon, Sarun, a vécu ça. Il n'a pas explosé sur une mine, mais parmi ses collègues, il y en avait un qui savait faire des tatouages protecteurs, des tatouages sacrés. Et donc, Sarun en a voulu un pour se protéger des mines. Et il n'a jamais sauté sur une mine. Donc, il s'est mis vraiment à croire en ce genre de choses. Et puis, de toute façon, au Cambodge, les croyances sont très fortes. Et ce qui fait que, après cette période des Khmer Rouges, il est devenu un tatoueur, un guérisseur d'une manière générale. Et donc lui, je l'avais choisi parce qu'il illustrait d'abord le fait qu'il avait été un ancien Khmer Rouge enrôlé de force. Ça montre un peu la méthode des Khmer Rouges. Et puis, il illustrait aussi ce côté, la sorcellerie. Les Cambodgiens sont bouddhistes, mais ils sont restés profondément animistes, comme si le bouddhisme n'était qu'un paravent. Dès qu'on gratte un peu, on retrouve les vieilles croyances dans les esprits, l'esprit des sources, des forêts, etc.
Ils ont réussi finalement à conjuguer en fait ces religions.
Oui, 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 et ils ne se posent pas la question comme nous.
On est noir ou on est blanc.
Oui, alors nous, c'est sûr que là, on peut difficilement être un sorcier et avoir une religion, mais en réalité, aucune religion n'est pure et il y a toujours une part d'irrationnel. Mais voilà, j'avais choisi donc Sarun parce que il illustrait plusieurs aspects de la vie cambodgienne, la politique, la guerre, le changement de vie après la guerre, et puis la sorcellerie quelque part. Donc voilà, et j'avais comme ça choisi un certain nombre de personnages. Il y en a un autre qui m'avait beaucoup plu. Là, on est dans la jungle, dans le nord-ouest du pays. Et quand j'étais au Cambodge, fin 2004, on annonce dans les médias qu'un groupe de Tampoun, c'est une tribu du Cambodge, un groupe de Tampoun vient de sortir de la jungle après 25 ans passés dans la jungle. Je trouvais ça absolument captivant. En fait, ils avaient fui les guerres, les conflits, ils s'étaient enfoncés dans les bois et ils n'ont jamais su que les conflits s'étaient arrêtés. Et donc 25 ans après, ils sont ressortis de cette jungle. Alors évidemment, j'ai essayé de les rencontrer et eux aussi sont entrés dans ma galerie de portraits. Et donc, il y avait comme ça quelques personnages que j'ai filmés entre 2003 et 2006.
Et puis, alors on reviendra peut-être un petit peu sur ces personnages. Et puis, quelques années après, vous êtes retourné au Cambodge avec votre papa. Et puis, vous avez souhaité justement revoir tous ces visages, tous ces portraits que vous aviez donnés à apprécier aux Français qui sont venus voir les conférences.
Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, au début, je n'osais pas montrer mon film à mon père. J'avais peur de sa réaction, qu'il soit déçu. J'avais peur de le décevoir, tout simplement. Mais au bout d'un moment, papa a non seulement vu ce film, qu'il a apprécié, mais en plus, il l'a présenté en conférence. Parce qu'il avait eu un cancer, en fait, et puis il était en rémission totale. Donc, il a eu envie de reprendre un petit peu des tournées de conférences. À l'époque, c'était Connaissance du Monde. Maintenant, c'est Altaïr Conférence. Et il a aimé présenter ce film. Et il s'est attaché à ces personnages. Et donc, en fait, en 2015, c'est-à-dire 12 ans après le premier tournage, il m'a suggéré qu'on parte au Cambodge ensemble, en fait, et qu'on essaie de retrouver tous ces gens. Alors, vous imaginez, au Cambodge, c'est pas évident de retrouver quelqu'un qui vit dans la jungle ou dans des régions éloignées. Et donc, ça a été passionnant. Ça a été tout simplement passionnant, comme une enquête. On arrivait dans des endroits, dans des petits villages, où j'avais filmé ces gens, donc, il y a 10 ans, 12 ans avant. J'avais quelques photos, j'avais un ordinateur avec quelques films. On présentait ça aux gens qu'on rencontrait. Et voilà, au gré des rencontres, on a retrouvé pratiquement tout le monde. Je crois que, 80% des personnages, on a fini par les retrouver. Et c'est très émouvant, évidemment. Comme rencontre dans ces cas-là.
Et ça donne ce film donc, qui vient d'être présenté, vous l'avez rappelé dans le cadre des conférences Altaïr, hein. Voyage au cœur du Cambodge, pas du tout, ça c'était peut-être le premier. Alors, non, Le Sourire Retrouvé.
Celui que j'ai présenté donc, cet après-midi s'appelle Le Sourire Retrouvé. Et il y a un jeu de mots sur retrouver. Le Cambodge a retrouvé le sourire et nous avons retrouvé ces gens qui nous avaient souri avant, donc dans 10 ans avant, 12 ans avant.
Voilà, alors justement sur le fait que le Cambodge a retrouvé le sourire, peut-être qu'il faut qu'on révise un petit peu nos bases d'histoire, parce que le Cambodge a une vie particulièrement mouvementée, et effectivement, même ces dernières années finalement.
Oui, l'histoire du Cambodge est tout à fait passionnante. D'abord, elle remonte très loin dans le temps. On s'enfonce vraiment dans le temps de 1000 ans avant nous. Donc, c'est là où apparaissent les premières traces de civilisation au Cambodge avec le Funan. Puis ensuite, il y a l'époque glorieuse d'Angkor avec ses temples extraordinaires, mais qui est une époque pleine de combats. Le Cambodge était déjà entouré par des pays avec qui les relations n'étaient pas toujours faciles. Et donc, il y a eu de très nombreuses guerres, même autrefois. Et ensuite, il y a eu un grand déclin. Quand la Thaïlande est devenue un pays puissant, et de l'autre côté, le Vietnam, le Cambodge a commencé, lui, à s'effondrer. Le Cambodge est la première civilisation à être apparue là-bas. Et donc, il y a eu une période sombre où l'histoire du Cambodge est en plein déclin. Et finalement, ça va se terminer avec la colonisation, tout simplement. En 1864, le Cambodge devient un protectorat français. C'est pas une colonie, hein, c'est un protectorat. Il y a quelques nuances. Et il va le rester à peu près pratiquement un siècle. Et donc, les Français ont eu, à partir de ce moment-là, un rôle, puisqu'ils vont renforcer une des familles aristocratiques qui va détenir le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours un roi au Cambodge qui parle parfaitement français d'ailleurs, qui a vécu à Paris pendant des années, qui était professeur de danse à Paris. Mais je pense que ce que vous voulez dire, c'est surtout la guerre du Vietnam et l'époque des Khmers Rouges. C'est là que le Cambodge vraiment connaît le martyr, j'ai envie de dire. En fait, les Cambodgiens ont obtenu l'indépendance sans aucun conflit, sans aucun combat, en 1953. Les rapports avec la France ont d'abord été excellents, ils sont restés très bons pendant longtemps, puis il y a eu cette guerre du Vietnam, les Français sont partis, les Américains ont pris la suite avec leur méthode, et là ça a entraîné toute l'Indochine dans un conflit absolument atroce, absolument atroce. Et alors les Khmers Rouges...
Pardon, petite précision, le peuple cambodgien est Khmer.
Oui. Un
Khmer, c'est vraiment leur nationalité, enfin je ne sais pas comment on peut dire.
Ce sont des synonymes absolus, cambodgien ou Khmer, c'est la même chose. Et donc les Khmers rouges, les communistes maoïstes Khmers vont prendre le pouvoir et ils vont, la première décision qu'ils vont prendre, c'est de vider Phnom Penh, la capitale.
C'est incroyable, alors ça c'est Pol Pot qui avait décidé ça, et pourquoi ?
On a du mal à vraiment comprendre la raison, sauf qu'ils avaient peur, un, d'être attaqués trop facilement par les Américains. Il faut comprendre qu'il y avait une guérilla. Les Khmers Rouges étaient des spécialistes de la guérilla, donc la jungle leur convenait mieux. Ils avaient peur aussi de ne pas pouvoir vraiment gérer une ville aussi grande, la ravitailler, parce qu'avec les réfugiés, il y avait 2 millions de personnes dans Phnom Penh. Donc, ça fait beaucoup de monde à ravitailler, etc. Donc, ils avaient peur des bombardements américains également. Donc, ils ont décidé... aussi pour des raisons psychologiques, c'est-à-dire déraciner totalement les gens, et notamment la bourgeoisie. C'est vraiment des communistes très durs. Hein. Tout ce qui leur apparaissait un peu bourgeois, il fallait changer la vie de tous ces gens. Et donc, en les arrachant à leur ville, à leur maison, et en les envoyant dans les bois, dans les champs, etc., on était sûr de les déraciner, de les déstabiliser psychologiquement. Alors, pour toutes ces raisons, ils ont fait cela. Ils ont provoqué la désertion de Phnom Penh. Immédiatement, la même journée de la prise de Phnom Penh, ils vont commencer ce grand exode. Et en quelques jours, Phnom Penh est absolument vide. Une ville immense, totalement vidée de ses habitants. C'est un grand cauchemar. Mais le cauchemar ne faisait que commencer, puisque les pauvres Cambodgiens ont été envoyés dans des camps de travail. Les Khmers Rouges avaient inventé, en théorie, un système dans lequel tout le monde devait redevenir un paysan, tout le monde devait savoir planter du riz, etc.
C'est maoïste.
Ah oui, c'est tout à fait comparable. Et donc, mais tout ça n'était que théorique, c'est-à-dire qu'ils ont cassé les champs traditionnels qui avaient des formes un peu particulières dues à l'histoire. Et puis là, ils ont voulu faire des grands champs avec des grands systèmes d'irrigation. Ils ont voulu faire des grands barrages, mais sans l'aide des Occidentaux et des gens qui avaient un peu d'expérience. On a demandé à des gens qui n'avaient aucune expérience de bâtir des barrages qui n'ont pas tenu, même pas une saison. Et donc, au bout d'une année, il y avait une famine colossale qui régnait. Ils avaient transformé un peuple. Les paysans ne devaient plus être paysans et les bourgeois ne devaient plus être bourgeois. et personne n'arrivait à faire son travail finalement, tout simplement. Et ça a créé une famine immédiatement, quasiment, et ce pauvre pays a beaucoup souffert. Mais c'était que le début des problèmes. Alors je m'appesantis un peu sur cet aspect, mais il y a eu aussi le problème des mines antipersonnelles. Lorsque les Vietnamiens ont commencé à attaquer les Khmers Rouges, eh bien, les Khmers Rouges, pour se protéger, pour empêcher l'avancée des Vietnamiens, plaçaient des mines antipersonnelles. Les Américains avaient fait la même chose, d'ailleurs, avant. Je ne mets pas tout sur le dos des communistes. Les Américains, qui ne sont pas communistes, ont fait des horreurs aussi, et des erreurs.
Au nom de l'éradication du communisme, même d'ailleurs.
Oui, en plus, oui, tout à fait. Et ce pays se retrouvait comme ça, couvert de mines antipersonnelles. Il y a eu des morts à cause de la famine, à cause des mauvais traitements, toutes ces mines antipersonnelles.
Ouais, des exactions, parce qu'il y en a eu beaucoup aussi.
Il y a eu beaucoup de grandes violences. Et dans ces cas-là, il y a des violences dues à la guerre, à la politique, et puis il y a aussi tout simplement des vengeances personnelles, comme la libération en France. On a réglé des comptes. Bref, ce pauvre pays s'est retrouvé devenir un pays martyr, largement bombardé par les Américains avant la prise de pouvoir par les Khmers Rouges, maltraité par les Khmers Rouges, puis ensuite il y a eu l'invasion vietnamienne, là aussi qui a été très dure pour la population cambodgienne, et finalement, ce n'est que depuis les accords de paix signés à Paris en 1992 que les choses ont commencé à s'améliorer. Puis le retour du roi, le roi Sihanouk, qui est devenu un symbole de stabilité. Quand il est revenu au pouvoir, c'est là vraiment que ça pèse toutes ces années de troubles. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un miracle cambodgien. C'est-à-dire que depuis que la paix est revenue, c'est un pays qui se développe à une vitesse folle. Ils ont commencé par refaire les routes. Quand j'y allais au début, c'était des pistes, mais terribles.
On le voit dans votre film, on se demande comment vous ne vous êtes pas embourbé. Effectivement, et c'est impressionnant. À un moment, il y a une moto et on voit effectivement là, le passager qui disparaît dans un trou, en fait. Puis non, en fait, la moto remonte, c'est assez incroyable. Donc ça, c'est un petit peu du passé.
Oui. La communauté internationale a donné beaucoup d'argent au Cambodge pour le développement et ça commençait par les routes. Alors au départ, ils n'allaient pas assez vite, il y avait un peu d'argent qui disparaissait, faut bien le dire. Et puis les Américains ont tapé du poing sur la table, ils ont dit on vous a donné des milliards, maintenant on veut voir les routes. Et ça a changé beaucoup de choses. Et puis il y a eu un petit conflit avec la Thaïlande à propos d'un temple qu'on appelle le Preahvir, qui est à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge et qui est revendiqué par les deux pays. Donc il y a eu un petit conflit autour de 2010, on va dire. Et là, ce genre de choses, ça accélère les processus. Pour envoyer l'armée dans le nord-est, on a fini les routes. Elles sont larges pour faire passer plein de camions, de soldats, etc. Mais finalement, le conflit n'a pas duré, il a avorté, on n'en parle plus du tout pour l'instant. Mais les routes, elles, sont toujours là. Et ce qui fait que toute la région du nord-est s'est développée aussi très très vite. Elle était très très en retard. Et donc, depuis, j'allais dire, une dizaine d'années, le PIB du Cambodge augmente entre 8 et 15% par an, ce qui est colossal. Et ça n'arrête pas.
Alors effectivement, le paysage du Cambodge change complètement. En même temps, on peut peut-être, et ça vous le soulignez un petit peu dans votre livre, avoir un petit peu d'interrogation par rapport à l'occidentalisation peut-être, et notamment à la culture de l'EVA qui brûle tout sur son passage. Et c'est au propre comme au figuré finalement.
Oui, depuis assez longtemps, depuis le temps des colonies, on sait que l'EVA est un arbre qui peut rapporter beaucoup d'argent. Les premières plantations au Cambodge ont été créées d'ailleurs par les Français. Mais on s'est vite aperçu qu'il y avait des jungles qu'on pouvait réduire et agrandir les champs d'EVA. Et c'est ce qui se passe maintenant. Il y a des industriels qui ont vu l'aubaine qu'il y avait là. Et donc des entreprises comme Goodyear, qu'est-ce qu'il y a comme entreprise aussi qui facilite la destruction de la jungle pour créer de nouveaux champs d'EVA. Et ça change complètement tout. Par exemple, dans ces jungles où vivaient des tribus, alors elles vivaient d'une manière très traditionnelle, très archaïque, et bien voilà, les champs les ont rattrapés. Et maintenant, ils sont employés dans des entreprises. Alors maintenant, ils manipulent de l'argent, ils doivent respecter des horaires, etc. Leur forêt a disparu. Et en très peu de temps, les membres de ces tribus ont une vie très occidentalisée qui n'est plus du tout celle qu'ils ont vécue jusqu'à aujourd'hui. Et alors, on peut s'interroger, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On ne peut pas le savoir et puis on ne peut pas le dire à leur place.
C'est sans doute effectivement la marche du temps, mais parfois ça vaut le coup aussi de se poser des questions, de s'arrêter un petit peu et de se dire, bon, est-ce que, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas moyen de faire marche en arrière. Et vous disiez quand même que le Cambodge s'est énormément développé. On va parler quand même, Sébastien Braquet, de religion, parce que dans ce film, le Cambodge, le sourire retrouvé, il est forcément beaucoup question de religion, puisque 96% de la population est bouddhiste, je crois.
Oui, le bouddhisme domine en termes de religion. Bon, il y a quelques chrétiens, il y a des musulmans, les chams notamment, une population de là-bas. Mais ouais, ils sont quasiment tous bouddhistes maintenant. Et ça date du Moyen-Âge. Pendant longtemps, le Cambodge était un pays où les dieux de l'hindouisme étaient vénérés. Ils avaient été colonisés par les Indiens et donc ils pratiquaient l'hindouisme. Puis ça s'est interrompu vers le 14e siècle. Il y a eu des combats assez théologiques, certes, mais parfois assez violents entre les hindouistes et les bouddhistes. Mais en 1431, lorsqu'on abandonne encore, une nouvelle dynastie va prendre le pouvoir. Et là, ils deviennent bouddhistes, ils deviennent tous bouddhistes et ils le sont toujours aujourd'hui.
Alors justement, on vous parlait d'encore, hein. On va quand même en dire un petit mot, hein, sur encore, et puis tous ces temples, hein, et ces temples que l'on retrouve aujourd'hui, grâce ou à cause, hein, justement de la culture de l'EVA qui permet de défricher finalement.
Et oui, on fait encore des découvertes archéologiques au Cambodge, mais il faut dire que c'était une civilisation très avancée, et les dynasties avaient une drôle d'habitude, c'était de changer de capitale assez régulièrement. Souvent, au bout de deux ou trois générations, le roi crée une nouvelle capitale. Alors, pas toujours très loin de la précédente, mais ce qui fait qu'on a comme ça plusieurs centres. Le temple d'Angkor, par exemple, ça commence au Roulos. Alors, ceux qui connaissent le Cambodge savent que c'est au sud des temples d'Angkor. Puis ensuite, ça va. En fait, ça commence exactement sur le Phnom Kulen. C'est une petite montagne qui a été transformée en une sorte de temple. La montagne a été sculptée, gravée, pour devenir la capitale de Jayawarman II, celui qui va fonder la dynastie d'Angkor. Puis ensuite, elle va se déplacer au Roulos, on est à une trentaine de kilomètres. Après deux ou trois rois, elle va aller pratiquement là où on trouve les temples d'Angkor aujourd'hui, avant de se déplacer vers Koh Kee, de revenir. Et donc, on trouve des traces archéologiques partout dans le pays, le long du Mékong, dans le nord, dans le sud, partout, même dans les grottes. Hein. Vous avez vu dans le film, je montre certains petits temples qui sont au fond de cavernes obscures. Alors, effectivement, dans le film que je vous ai montré aujourd'hui, quand j'étais au Cambodge, la nouvelle aussi circulait qu'un petit temple avait été redécouvert à un endroit où il n'y en a quasiment aucun. On est pratiquement à la frontière entre le Vietnam et le Cambodge, dans la région du Mondulkiri. Non, pardon, du Ratanakiri, c'est la région au-dessus.
Et les initiés font la différence, oui.
Ah oui, les initiés vont sursauter si je me trompe. Et donc dans le Ratanakiri, et donc j'ai voulu voir ce qu'était ce temple, parce que au Cambodge, les rumeurs circulent très vite. Et on disait n'importe quoi. Oui, ce temple est immense, il est unique en son style. Et on disait même qu'on ne pouvait pas le photographier. Des gens étaient allés le voir, mais ils avaient essayé de prendre des photos, mais ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas, les pellicules n'imprimaient pas.
Ça, c'est toujours la magie qui règne au Cambodge aussi. Hein.
Exactement, oui, ils font vite des histoires étranges avec ce qui se passe. Et alors j'ai voulu quand même aller voir ce petit temple. Bon, c'est ce qu'on appelle un prasat, c'est une sorte de petite tour qui aurait été bâtie non pas par les Khmers mais par les Chams et qui a disparu comme ça dans cette jungle pendant des centaines d'années. Et lorsqu'ils ont commencé les brûlis pour gagner un peu de terrain et planter leur EVA, eh bien le temple est ressorti de sa gangue végétale et j'étais donc là-bas dans cette région à ce moment-là. Alors je me suis donné un peu de mal pour aller le rejoindre et prendre quelques images. Il n'était pas aussi impressionnant que ce que je voulais, mais c'est quand même émouvant. C'est quand même et surtout, c'est une région où il n'y a quasiment aucune ruine. Et par la suite, l'école française d'Extrême-Orient, qui est installée à Phnom Penh, a demandé mes photos, mes images, parce que ça les intéressait aussi.
Oui, parce que vous étiez le premier à avoir réussi à dompter cette magie.
Apparemment, j'étais pas le premier parce que j'avais des traces de passage, mais c'était sans doute des Cambodgiens ou des gens du coin ou des ouvriers. Mais je crois que j'étais l'un des premiers à le filmer, oui, ça c'est sûr.
Voilà, donc c'est pas rien. Donc on peut pas parler de tous ces temples hein, qu'on a vus dans le film. On va peut-être dire un petit mot comme sur certains de ces portraits que vous avez retrouvés. Et notamment, par exemple, effectivement, vous en parliez tout à l'heure, l'ancien Khmer Rouge enrôlé de force, qui était devenu tatoueur. Et c'est vrai que là aussi, ces techniques ont évolué, et c'est tant mieux.
Oui, mais parce qu'au début, il vivait dans un endroit assez pauvre, assez désertique, et il avait constitué son matériel pour tatouer comme il pouvait. Donc il avait...
Pardon, là on est en 2003-2004.
Oui, voilà, quand je l'ai filmé la première fois, c'était en 2003. Et donc, il n'avait pas le matériel qu'on connaît, parce que le tatouage est devenu très très populaire. Maintenant, on trouve des tatoueurs partout. Et on voit bien les conditions sanitaires, on voit bien qu'ils ont des machines électriques, des encres extraordinaires. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Là, notre brave sorcier, il s'est fait une petite lance et il avait récupéré la pointe d'une intraveineuse, le bout d'une intraveineuse dans un hôpital militaire, une vieille aiguille trouée, rouillée, enfin bon. Et il avait installé ça au bout d'une petite lance en plastique avec du scotch. Et quant à l'encre, il utilisait de l'encre qu'on met dans les stylos, hein, diluée avec un tout petit peu d'eau. Je sais pas ce que. Alors, aucune condition d'hygiène. Ça se passait dans la cour de sa ferme, entre les cochons et les poules, dans la poussière. Et alors, quand je l'ai retrouvé quelques années plus tard, il commençait à devenir assez célèbre au Cambodge, finalement. Et il avait pu s'acheter une petite machine à tatouer électrique.
Mais du coup, c'était presque décevant de le voir. Ça n'avait plus le même charme.
Ah, effectivement, ça faisait moins sorcier de campagne. Il s'était un petit peu installé, puis il avait grossi, on le voit dans le film, donc je sais qu'il gagnait bien sa vie, les gens lui faisaient confiance, et il était assez réputé dans son domaine. Et d'ailleurs, il est parti en Indonésie par la suite, ou dans d'autres pays d'Asie, pour apprendre de nouvelles techniques. Et à la fin, il travaillait à Phnom Penh, d'ailleurs, il avait ouvert une sorte de petite officine à Phnom Penh. Et ça marchait bien pour lui, mais hélas, il nous a quittés il y a deux ou trois ans maintenant. Je l'ai su par un de mes assistants qui m'a tenu au courant.
Oui, c'est ça, on voit que vous restez bien en lien avec le Cambodge. Hein. Et quand même, pour rester sur lui, il y a aussi une autre chose qui m'a beaucoup surprise. Hein. C'est le moment où, pour un de vos assistants, il lui enfonce un petit bout d'aiguille en or. Enfin, je dis aiguille, je ne sais pas si c'est le bon terme, hein, dans le front.
Oui, effectivement, je ne connaissais pas du tout cette technique, mais un de mes assistants, Nicette, qui est un ami aussi, bien sûr, ne voulait pas de tatouage. Lui, avoir de l'encre sur la peau pour toute la vie, ça ne lui plaisait pas des masses.
Et puis, il y a la douleur aussi, hein, peut-être.
Il y a peut-être un peu de douleur, mais je crois que c'est le dessin, ça ne lui plaisait pas des masses. Mais il voulait quand même une sorte de protection un petit peu surnaturelle. Alors, le Kloulen, c'est le nom de ce sorcier, lui a proposé de lui enfoncer une petite tige en or sous la peau, effectivement. Et,
au-dessus du nez, en fait.
Oui, au-dessus du nez. Et apparemment, il y a une zone qu'il faut bien reconnaître. Et là, on peut enfoncer cette tige en or. Alors, il y a quelques bénédictions, quelques prières. J'ai pas tout montré, ça prend du temps. Mais effectivement, le sorcier arrive à enfoncer cette petite tige de métal sous la peau. Et il n'y a pas une goutte de sang qui coule. Ça disparaît sous la peau. Et cette petite tige était censée le rendre clairvoyant, surintelligent, etc. Bon, je ne l'ai pas trouvé plus intelligent que moi. Non, je rigole. C'était un très, très... Il était très intelligent, Nicette. Il est toujours.
Avec ou sans cette petite épine d'or?
Oui, mais voilà, ça fait partie des croyances. C'est presque pour se rassurer, vous savez. C'est presque un effet placebo à la rigueur, mais... En lui, dans sa peau, il y a cette protection surnaturelle qui ajoute à sa confiance, j'imagine. C'est quelque chose comme ça.
Voilà. Un petit mot sur cette famille hein, qui a passé 27, 23 ans en pleine jungle. Ça aussi, c'est quand même hallucinant.
Oui, mais ce n'est pas les seuls. Il y a eu des tas de groupes ethniques qui ont été en fait les jouets des grands stratèges politiques. Par exemple, les Khmers Rouges, on parle d'eux finalement. En 1962, ils commencent à s'entraîner dans la jungle. Car le roi Sihanouk interdit le communisme. Donc, les communistes fuient Phnom Penh, fuient les grandes villes, ils vont installer des camps au fond des jungles et commencer à s'entraîner à la guérilla. Ils vont rejoindre pour survivre les tribus très simples, des gens très simples qui vivent dans ces forêts, et ils vont un petit peu les embrigader, évidemment. Souvent, les membres de ces tribus ont été envoyés en première ligne alors qu'ils n'y connaissaient rien en politique, en idéologie politique, en économie, rien.
Et qui ne demandait rien à personne, il vivait très simplement...
Qui ne demandait absolument rien à personne, tout à fait. Quand ils ont commencé à prendre conscience qu'ils étaient manipulés de tous les côtés, eh bien, ils se sont enfoncés dans les bois, tout simplement. Ils sont, du jour au lendemain, ils ont disparu. Et comme ils n'avaient aucun moyen d'obtenir des nouvelles, ils sont restés dans les bois, mais ils se sont perdus. Alors en plus, ces tribus-là, les Tampouns notamment, sont nomades. Ils s'installent dans les clairières pendant une saison ou deux, puis après, ils changent d'endroit. Et très vite, ils n'ont plus retrouvé leur chemin pour gagner le Cambodge. Et donc, ils ont erré comme ça pendant des années et des années, jusqu'en fin 2004, pour ce groupe. Et ça m'a vraiment étonné. On entend parler parfois de ces histoires, les fameux Japonais dans les...
Oui, mais on n'y croit qu'à moitié quand même.
Oui.
Vous les avez vus et entendus de vos propres yeux, de vos propres oreilles.
Oui, voilà. Et au départ, d'ailleurs, la nouvelle a été annoncée, et puis après, on les a un peu cachés. Parce qu'on les a en fait pas très très bien traités dans les hôpitaux de ces régions, qui sont vraiment des régions très pauvres. On s'en est pas très bien occupé. Et puis surtout, ils ont contracté des maladies qu'ils ne connaissaient pas dans les bois. Ils n'avaient aucun vaccin, rien du tout. Et la plupart de ces pauvres gens qui ont survécu des années dans la jungle sont morts en quelques semaines lorsqu'ils ont rejoint les hôpitaux. Ça peut paraître dingue parce que nous, on se dit un hôpital, c'est l'endroit sûr. C'est la forêt qui est dangereuse. Eh bien, pas pour eux. Pas pour eux, ils sont adaptés à leur forêt. Et beaucoup sont morts en arrivant dans les hôpitaux. C'est très triste. Et finalement, ce que je montre dans le film, Loïn et la jeune femme, sont des survivants, sont doublement des survivants. Ouais. Ils ont survécu au bois sauvage et à la civilisation, entre guillemets. C'est vraiment une histoire incroyable.
Et comment ils se sont réadaptés à cette civilisation une fois passé le test des microbes ?
On en parlait tout à l'heure. Maintenant, ils sont employés dans un champ d'EVA. Loïn, l'aîné de ce groupe, le plus âgé de ce groupe, est le gardien d'un champ. Il est chargé, il a la mission de surveiller le petit champ d'EVA. Et puis la jeune fille, qui est, elle, née dans la forêt, à l'époque, je ne sais pas quel âge elle avait, 20 ans peut-être, elle travaille dans une entreprise, dans un champ d'EVA, elle, tout simplement. Là aussi, c'est une vie complètement différente qui commence pour eux.
C'est très étonnant, on a du mal à imaginer ça. On va être obligé de se limiter dans ce qu'on a à dire. Je voudrais juste qu'on fasse un comparatif entre la tombe de Pol Pot et les funérailles de Norodom Sihanouk.
Sihanouk, qui est l'homme politique le plus emblématique du Cambodge.
Apprécié.
Et apprécié, oui, par beaucoup en tout cas. Est vraiment un personnage hors du commun. C'était d'abord un prince qui a été choisi en 1941, par le régime de Vichy d'ailleurs. Pour être le roi, parce qu'il y a, si vous voulez, il y a deux branches dynastiques, et les Sisowat et les Norodom. Et souvent, il y a une alternance dans les deux. Et puis là, bon, bah, les Français ont choisi ce jeune prince, Norodom, parce qu'ils pensaient qu'il était malléable, qu'ils pourraient l'utiliser assez facilement. Et puis, Norodom, Sihanouk, s'est avéré un roi assez fantasque, plus malin que ce qu'on imaginait, plus ambitieux aussi. Ce qui fait qu'il a réussi à chasser les Français en 1953. D'abord, il a abdiqué pour son père. C'est très compliqué. Il devient roi. Il abdique pour son père parce que Norodom Sihanouk veut faire de la politique. Or, au Cambodge, le roi ne peut pas gouverner. Il règne, mais il n'est pas le chef du gouvernement. Et lui, il veut faire de la politique. Donc, il abdique, il devient Premier ministre. Et il crée un parti qui va être évidemment très populaire. Et il va commencer une croisade pour l'indépendance. Et les Français vont leur accorder. Après, bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. En 1953, le Cambodge est libre. Alors évidemment, Norodom Sihanouk devient le héros pour tout le monde. Et puis, il va s'accrocher au pouvoir. Ça va un petit peu mal tourner parce que l'usure du pouvoir fait qu'à un moment, ce n'est plus possible. Par exemple, quand il y a eu ces grands mouvements qui allaient entraîner le communisme, Norodom Sihanouk s'est montré très dur en interdisant le communisme, en emprisonnant les communistes, etc. Donc, quelque part, il a entraîné le durcissement des Rouges. Il s'accrochait au pouvoir, malgré tout. Et finalement, il a été renversé par un coup d'État, d'ailleurs par un de ses cousins, Lon Nol, qui était appuyé par les Américains. Et les Américains ont toujours nié avoir participé à ce coup d'État. C'est un mensonge énorme parce que, en fait, les Américains avaient besoin du Cambodge pour installer des bases et continuer la guerre au Vietnam sans être au Vietnam. Vous voyez, c'était des choses comme ça qui se passaient. Et puis, ils ont bombardé massivement. Il faut dire que les Vietnamiens aussi passaient par le Cambodge pour attaquer les Américains. Le Cambodge était devenu le cœur de la guerre, sans qu'on le sache. Et puis donc, Sihanouk a été renversé. Bon, je vais vous faire l'histoire assez courte. Il est devenu le président des Khmers Rouges. On ignore ça, mais le président, ouais, le président des Khmers Rouges était Norodom Sihanouk. Il était évidemment manipulé par les Khmers Rouges, par Pol Pot, qui voulait utiliser sa popularité en fait. Mais Sihanouk, lui, il s'était dit, je vais rester avec eux parce que moi, je vais protéger mon peuple. C'était son idée.
Ouais, c'était louable.
Quelque part, oui.
Et... Très utopique.
Oui, voilà, mais on ne sait plus où est la limite entre l'ambition personnelle, l'amour pour son peuple, la stratégie, enfin, c'est assez complexe. Bref, finalement, les accords de Paris vont être signés, présence de Norodom Sihanouk, et quelques temps plus tard, après un référendum, Sihanouk va redevenir le roi du Cambodge. Et quand je suis arrivé la première fois au Cambodge, il venait de redevenir roi. Et c'était très drôle parce que, d'abord, il parle très bien français. C'était un roi qui avait beaucoup d'humour. Quand il s'exprimait, il y avait beaucoup de phrases très drôles. Et puis, il avait une émission de télévision parce qu'il adorait chanter, danser, et notamment les vieilles chansons françaises. Et il y avait une émission au Cambodge, à la télé, toutes les semaines. Et Sihanouk, leur roi, interprétait les vieilles chansons françaises, la Java bleue, ou je ne sais pas.
C'est très improbable.
Ah oui, 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 on aurait dit Jacques Martin. Et ça ressemblait à ça, ou à Pascal Sevran. On le voyait danser, la Java bleue, la Java la plus belle, etc. Et c'était étonnant. Et c'était un roi vraiment particulier, avec beaucoup de personnalité. Même s'il a eu un rôle ambigu à plusieurs époques de sa vie, il était quand même très apprécié des Cambodgiens et il était l'image du Cambodge quelque part. Et donc, à sa mort, il y a eu un très grand deuil national, évidemment. Et dans le film, je montre les obsèques, les funérailles plutôt de...
100 jours après le décès, c'est la règle.
Voilà, exactement, 100 jours après son décès. Et c'était des funérailles grandioses. Une immense parade dans toute la ville, plein de drapeaux, des oriflammes, des gens habillés dans des costumes d'époque, les danseuses sacrées étaient là, il y avait tous les ministres. Enfin, c'était énorme, vraiment magnifique. Et puis ça se terminait quelques jours après par la crémation. Donc un moment très très émouvant, mais où tout le Cambodge a vibré. Vous voyez des gens pleurer, sangloter dans la rue. Et il y avait une ambiance tout à fait incroyable. Et comme vous disiez, là on est très très loin de l'histoire de Pol Pot. Car Pol Pot, qui a été longtemps le chef secret des Khmers Rouges, n'a pas du tout connu une fin aussi glorieuse. Après la chute des Khmers Rouges, il y a eu divers clans. Avec différents chefs, il y avait, bon, peu importe, Tamok, Son Sen, Pol Pot, et ils se détestaient entre eux, plus ou moins, ils avaient leurs hommes autour d'eux, mais entre chefs, ils se détestaient. Et puis, Pol Pot a fait assassiner un de ses rivaux, et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si je puis dire. Et finalement, les derniers chefs Khmer Rouges se sont réunis et ont organisé le procès de Pol Pot. Il n'a pas eu de défenseur. Il n'a pas dit un mot pendant son procès, d'ailleurs, c'était totalement à charge. Et Pol Pot a été enfermé à l'issue de ce procès, il était condamné à être enfermé dans une prison. Et lorsque l'armée républicaine a commencé à approcher l'endroit où il était retenu, eh bien, comme par magie, comme par enchantement, il est mort. Je pense que là aussi, on a...
Il a été aidé.
Je pense que le destin a été aidé. Et pour pas qu'on retrouve le corps, pour pas qu'il y ait d'endroit pour se recueillir et pour se débarrasser de tout.
Pour honorer sa mémoire, parce que c'était un risque aussi, que les Khmers Rouges honorent sa mémoire.
Voilà, et pour éviter cela, il a été brûlé sur un tas de pneus et de matelas absolument minables, un peu en cachette. Il y avait un journaliste, je crois qu'il était australien, qui avait été accepté chez les Khmers Rouges à ce moment-là et qui a pu filmer... ces images absolument incroyables.
Ce sont ces images-là qu'on voit dans votre film. Ah oui, parce que du coup, j'étais assez étonné, effectivement, que vous y ayez assisté. Mais du coup, non.
Ah, vous pensez que... Vous pensiez que c'était moi
Et je me suis posé la question.
Ah oui, oui, oui. Ah, j'aurais bien voulu. Mais c'était avant que j'arrive au Cambodge. C'était en 1998, donc j'ai pas pu voir tout ça. Mais ce qui est étonnant, c'est donc à Anh Long Veng, l'endroit où tout ça s'est passé, eh bien, il y a une tombe. C'est même pas une tombe, c'est un... Comment on pourrait appeler ça ?
Un carré de...
Ouais, un carré de cendres. C'est là où a été brûlé Pol Pot. Et je sais que beaucoup de gens sont venus pour essayer de retrouver des reliques, des morceaux d'os, de dents, des choses comme ça. assez sordide. Il n'y a pas plus opposé que le destin de Pol Pot et de Sihanouk. Alors, ça se voit bien dans la fin de leur vie, ça c'est sûr.
Oui, effectivement, c'est flagrant. C'est pour ça que ouais. C'était intéressant, finalement, peut-être de terminer là-dessus, puisqu'il faut bien terminer, hein, Sébastien Braquet, même si on aurait pu parler encore de beaucoup de choses. Hein. Mais voilà, ça montre bien, effectivement, l'histoire récente du Cambodge entre ces deux personnages, finalement, qui ont mené chacun à leur tour ce beau pays. Ouais. Donc merci beaucoup pour ce voyage, hein, Sébastien Braquet. Et puis nos auditeurs peuvent toujours vous retrouver sur le site internet. Il vous reste quelques DVD.
Oui, il me reste toujours des DVD. Hein. Oui, effectivement, grâce à Altaïr, on peut communiquer avec moi. Ce sera toujours avec plaisir.
Voilà, grâce à Altaïr qui vous a fait venir aujourd'hui.
Merci à vous.
C'était Voyage au bout du monde. Une rencontre proposée par Isabelle Rupin.